dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Allô, oui, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Effectivement, j'étais un peu perturbé sur le lancement puisque il nous en manque un, mais même quand il est pas là, il est là, on l'entend quand même, quoi. Alors, ce soir, dans les Grégores, on va se prendre un peu la tête. Hein. On va profiter qu'on a un peu de temps, que c'est l'été, pour faire de l'histoire, essayer de se détacher un peu de toute l'actualité qui nous pollue et nous empêche parfois de réfléchir. Mais évidemment, on va quand même dire, avant le lancement du son qu'on va écouter, on va quand même dire quelques mots sur la situation particulière qu'on vit aujourd'hui. On est le lendemain des élections législatives. Et bon, vous n'attendez pas à ce qu'on vous livre une analyse politique et sociologique hyper pertinente, déjà, parce que bon, c'est pas forcément hyper... Enfin, c'est pas le centre de nos intérêts primordiaux dans nos vies, mais aussi parce que il y a un second tour à la fin de la semaine, et en plus, il faut quand même prendre son temps pour éviter de dire des banalités d'usage. Il faut réfléchir à partir de faits. Il faut réfléchir à partir de choses qui sont mesurables et quantifiables. C'est pas la peine de faire de la prospective où on n'est pas dans une chaîne d'information continue ou sur la radio ou autour d'un bar où en plus on n'a même pas de bière, donc ça vaut même pas le coup, quoi. Donc en tous les cas, ce qu'on peut dire, et c'est quand même la chose qui moi m'apparaît la première déjà à commenter, c'est que on sait que 74% des électeurs âgés de 35 ans ou moins ne se sont pas déplacés au scrutin. Donc ça inclut les 15-25, ça inclut les 18-25 et les 25-35. Donc c'est toutes ces oui, parce que souvent on réfléchit par ces tranches là, hein. Donc 74%. On a un taux d'abstention général de 52, hein, supérieur à 52, en tous les cas supérieur à 50%. Et mais donc 74%, ça veut dire que les gens qui normalement vont constituer le moteur de la société, à la fois dans sa population active, mais dans ceux qui vont participer à ces échanges, à sa construction, à sa fabrication réelle et concrète et matérielle, mais aussi à ce qu'elle incarne, ne seront pas représentés par l'organe central de la vie politique française qui va fabriquer les lois pendant 5 ans, qui, elle, va décider de choses matérielles, réelles et concrètes. En l'occurrence, par exemple, je sais pas, mais instaurer du travail gratuit pour les gens qui sont au RSA. Donc il y a quand même un écart, un décalage extrêmement extrêmement important entre ce qu'est la société, comment elle fonctionne, comment elle vit, d'une part, et puis donc ces représentations politiques institutionnelles. Ce qu'on a, c'est qu'on a vraiment là une caractéristique très importante de ce que peut être un système qui n'arrive pas à crever, c'est-à-dire qui a arc-bouté et qui agonise dans des espèces de soubresauts. C'est qu'on a une classe possédante, vieille, puisque on va dire, je crois que c'est aux alentours de 40% des plus de 60 et 60% des plus de 70 qui ont voté pour La République En Marche et pour le Rassemblement National. Et eux ne se sont abstenus qu'aux alentours de 40%. Je crois que c'est 38 exactement le chiffre. Il faudra vérifier. Vous me corrigerez si je dis des bêtises, quoi. Donc là, vraiment, on a une lecture qui est assez limpide, quoi. D'un côté, les forces vives de la société, et de l'autre, les possédants, les vieux croulants, qui veulent pas partager et qui, au contraire, veulent faire travailler les autres plus et plus longtemps. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que cette forme sociale-là, elle est aussi sous une forme représentative que peut-être La République En Marche et ses caricatures de représentants, puisque depuis quelques jours, c'est quand même le feu au lac et on a les vieilles ressorties des poncifs bourgeois, vraiment hyper drôles. Spéciale dédicace à Aude de mon machin, là, Amélie de Montchalin, qui nous a proposé hier, enfin ce matin plutôt, de voter pour elle pour éviter d'ouvrir un boulevard aux anarchistes d'extrême gauche. Voilà, on a gagné en fait, on le savait pas, mais les anarchistes d'extrême gauche étaient représentés chez elle, il faut quand même le dire, par Jérôme Guedj, président du conseil départemental de l'Essonne. Ça vous laisse un petit peu concevoir quelle est la représentation de la société de ce genre de personnes. Et donc là, on parle d'un système qui ne veut pas crever et qui, malheureusement, crèvera pas tout seul. Il va falloir qu'on l'aide. Et ce soir, donc, on voulait vous proposer de réfléchir justement à la naissance de ce monde, à la naissance de cette société, et à réfléchir à proposer une histoire spécifique et globale de l'émergence du capitalisme. En effet, l'histoire de l'émergence du capitalisme, c'est une histoire qui est extrêmement importante et lourde d'enjeux politiques, puisque on nous présente le capitalisme comme quelque chose de quasiment naturel, quoi. Effectivement, hein, si le capitalisme a toujours existé, bah, il est que la prolongation d'un penchant de l'homme vertu comme un agent économique aux échanges, et que il est quasiment même une expression de son humanité. Et malheureusement, en France, on ne discute pas énormément de ces notions-là, de l'émergence du capitalisme. Et on pense que le capitalisme a émergé pacifiquement dans toute l'Europe occidentale à partir du Moyen-Âge, et que du coup, son émergence a été, on va dire, la pacification des échanges par l'intermédiaire du commerce, et qu'il n'a jamais été au lien avec des oppressions comme le patriarcat, l'esclavage, le racisme, le colonialisme, l'exploitation des milieux naturels, etc., etc. Or, si l'on s'attache à regarder de manière assez précise cette émergence du capitalisme, on s'aperçoit qu'il est apparu en rupture violente avec l'histoire des sociétés humaines qui l'ont précédé, et qu'il a été véritablement à la fois imposé, mais qu'il a été une apparition qui s'est fait dans la douleur, et qu'elle n'a pas, cette apparition a engendré énormément de résistance. Et comprendre et essayer d'avoir une narration un petit peu intelligible de ces questions d'émergence du capitalisme en général, parce que c'est là qu'on a le mieux documenté et c'est là que les historiens ont le plus travaillé, situer cette émergence et cette apparition en Angleterre, à partir du 15e siècle et du 16e siècle. Parce que il va se passer des choses extrêmement importantes au niveau de la transformation de la société anglaise, qui va entraîner des modifications, des résistances et des luttes, évidemment, mais l'apparition d'un nouveau monde, bien évidemment pas en quelques années, mais sur une assez longue période, mais c'est là que sont repérables, on va dire, tous les leviers permettent de comprendre comment un système économique apparaît. Et c'est vraiment hyper important, non pas de maîtriser, en tous les cas, de comprendre tout, mais de saisir que ce système, il a une histoire, il a une apparition, il a des conditions d'apparition, parce que lorsqu'on comprend ces conditions d'apparition, on peut aussi envisager et comprendre ces conditions de disparition et de fin. Alors, pour aborder toutes ces notions qui peuvent apparaître extrêmement compliquées, qui le sont, donc vous aurez l'occasion de réécouter plusieurs fois certainement l'émission si on, vous n'avez pas tout saisi, vous pouvez prendre des notes. On va utiliser deux parties d'un exposé long mais très bien fait de nos complices habituels de sortir du capitalisme qui ont pris le temps de s'atteler à tout ça. Dans cette première partie qui va durer une quarantaine de minutes, on va justement essayer de remettre en perspective les enjeux, de comprendre qu'est-ce qu'est la société avant le capitalisme, le féodalisme, et puis après, donc la nouvelle société anglaise. Et puis, dans la seconde partie, la semaine prochaine, on ira vraiment dans le cœur du détail de comment se fabriquent des relations qu'on peut qualifier de capitalistes en Angleterre au cours des siècles qui précèdent. Voilà, c'est parti, on y va. Vas-y Camille.
Cette émission, l'intervieweur habituel sera interviewé, puisque je reçois Armand Paris, voilà, qui va nous parler de l'émergence du capitalisme. Donc on va faire une émission en plusieurs phases.
On ne pète pas.
On va d'abord essayer de se poser la question, enfin d'abord on va éclaircir pourquoi on se pose cette question de l'émergence du capitalisme. On va essayer de caractériser ce qu'est le capitalisme et revenir sur le fait que justement le fait de se poser la question permet de mieux le caractériser, et mieux le caractériser quelque part aussi permet de réfléchir à son dépassement. Voilà, donc du coup je vais te poser un peu la question, voilà, pourquoi est-ce qu'on peut se poser cette question de l'émergence du capitalisme et les différents récits qui existent sur cette émergence, que ce soit la version, on va dire, libérale, la version contre-révolutionnaire, ou l'historiographie marxiste classique, sur laquelle on peut voilà, avoir des points de convergence, et sur lequel on peut avoir quelques points critiques. Donc on va revenir là-dessus. Du coup, je te donne la parole, Armand, par rapport à ces questionnements, et dans une seconde phase de l'émission, on se focalisera sur l'émergence du capitalisme en Angleterre. Voilà, on rentrera dans les détails 15e, 16e, 17e, 18e siècle sur ces formes de préconditions voilà, de l'émergence du capitalisme en Angleterre, en partant donc du coup de l'hypothèse que le capitalisme est né en Angleterre. Et on expliquera pourquoi. Que, voilà, du coup, je te donne la parole sur ce pourquoi se poser cette question de l'émergence du capitalisme.
Bah, pourquoi se poser la question de l'émergence du capitalisme? C'est vrai que ça peut paraître un peu étrange, enfin voilà, peut-être simplement un enjeu voilà, d'historien, historiographique, de passionné d'histoire. Mais en réalité, je pense que pour trois raisons, c'est quand même important de se poser cette question de l'émergence du capitalisme. Tout d'abord, si le capitalisme existe depuis, mettons, 5 siècles, et qu'en réalité, il y en avait déjà des formes embryonnaires en Mésopotamie, donc il y a à peu près 5000 ans, bon, le capitalisme paraît quand même moins facilement dépassable que si on dit que le capitalisme est né en Angleterre uniquement il y a 5 siècles, et qu'il n'a véritablement émergé dans le reste de l'Europe occidentale et dans le reste du monde avec la colonisation qu'à partir du 19e siècle, donc, disons 1789. Voilà, donc du coup, le fait de considérer que le capitalisme n'émerge qu'en Angleterre et qu'il met vraiment du temps à émerger dans le reste de l'Europe, ça le rend, disons, moins inéluctable historiquement, ça, une forme de société qui va moins de soi et qui paraît donc plus facilement dépassable. Deuxièmement, la question de l'émergence du capitalisme, comme tu l'as dit, ça permet aussi de repenser comment est-ce qu'on définit le capitalisme. Parce que si on adopte une définition du capitalisme où le capitalisme c'est le fait de s'échanger des coquillages, bon, le capitalisme existe depuis très longtemps. Mais on ne vit pas dans une société où on échange des coquillages, en tout cas c'est ce qu'on pense, c'est que ça va un petit peu plus loin. Donc du coup, il importe de redéfinir le capitalisme pour à la fois mieux saisir quand est-ce qu'il est né, et donc en fait on verra qu'il n'est pas né comme ça naturellement, inéluctablement, il y a 5000 ans, voilà. Et d'autre part, ça permet de redéfinir ce que c'est que le capitalisme pour aussi mieux comprendre la société qu'on critique. Et troisièmement, si on fait cette émission, c'est parce que la plupart des récits, et disons les récits dominants de l'émergence historique du capitalisme, ne sont pas satisfaisants. Ils sont pas satisfaisants pour toute une série de raisons, et c'est ce qu'on va voir maintenant.
Donc on va essayer de passer un peu en revue ces différentes versions. Donc que ce soit la version, on va dire, d'un capitalisme voilà, dormant, toujours là, en fait, qui est une forme de continuité de quelque chose, d'une augmentation technique, commerciale, ou on va dire une version un peu contre-révolutionnaire d'une modernité. Catastrophique, qui fait appel du coup avec une forme d'âge d'or, ou alors l'historiographie marxiste, donc sur laquelle on peut avoir peut-être plus de proximité, notamment sur les thèses autour de la constitution du travail comme marchandise, la question des enclosures, d'une forme de dépossession initiale, une accumulation primitive, etc. Sur lequel on va essayer d'apporter aussi des nuances. Donc du coup, peut-être tu peux rentrer un peu plus dans le détail de ces trois versions, tout en affinant un peu les critiques qu'on peut émettre à chacune de ces versions, avant de poser peut-être un peu les jalons ou les bases d'une définition du capitalisme. Bon, on va pas. C'est un peu ambitieux, mais voilà, sur quoi est-ce qu'on peut se mettre d'accord qui pourrait enfin, nous dire on est là sur quelque chose qui ressemble à du capitalisme. Voilà. Donc peut-être en partant des critiques de ces trois récits classiques, on va dire, si tu pouvais les détailler et puis voilà, préciser les critiques à leur égard. Voilà.
Alors, bon, le récit qui est aujourd'hui, qui est dominant, qui est dit dominant depuis le 19e siècle, c'est, on va dire, l'historiographie libérale. C'est une version développée d'un modèle presque philosophique, qui est celui de la philosophie des Lumières, parce que l'histoire est quand même très liée encore au 19e siècle avec une certaine philosophie de l'histoire. On voit que c'est un reproche auquel n'échappent pas les marxistes. Et cette philosophie de l'histoire, c'est une philosophie du progrès. Alors, alors, il y a deux modèles principaux. Donc, on pourrait dire il y a le modèle de Kant, où Kant, avant, c'était l'horreur, la barbarie, et puis maintenant, c'est merveilleux. Et puis après, il y a le modèle de Hegel qui nuance un peu. Et de dire, bon, avant c'était la merde, mais c'était quand même des étapes nécessaires pour arriver au progrès. Mais il n'en reste pas moins que le modèle général de cette historiographie libérale, c'est que avant c'était moins bien, c'était pire, et puis il y a eu un progrès, et un progrès qui est technique, qui est économique, parce que pour eux, l'économie ça a toujours existé, et voilà, on va toujours vers du mieux. On se rapproche des formes de rationalité, voilà, calculatrice, voilà, de la rationalité weberienne. On va vers une optimisation de l'allocation des ressources, voilà, on vit mieux, etc., etc.
Les sciences ne connaissent pas de rupture, elles sont juste une forme d'amélioration perpétuelle aussi. Il n'y a pas de rupture épistémologique ou philosophique à l'intérieur du cadre scientifique non plus.
Alors si, bah ça dépend
Enfin, dans le récit libéral, hein, je veux dire.
dans le récit libéral, bah le récit libéral il est un peu bizarre parce que parfois on a l'impression, bah le récit libéral il est assez contradictoire, c'est-à-dire que d'un côté il dit que ce qu'on fait, c'est un peu le côté kantien, c'est-à-dire ce qu'on fait n'a jamais existé avant et donc il est en rupture avec tout ce qui a pu exister, mais d'un autre côté il y a aussi le côté un peu hegélien, c'est bon finalement on n'invente pas grand-chose puisqu'en fait ça ce qu'on fait actuellement ça a toujours existé sous une forme un peu embryonnaire. C'est-à-dire, c'est un peu la métaphore, je ne sais pas moi, un peu biologique, quoi. Le capitalisme, au début, c'était une graine, un germe. Et puis, ça a poussé, poussé, poussé. Ça a commencé à pousser en Mésopotamie. Et puis, ça a commencé à pousser dans les interstices du féodalisme. Et hop, ça a renversé le féodalisme par une révolution progressiste. Et cette révolution progressiste, elle est menée par une force progressiste. Et cette force progressiste, c'est la bourgeoisie. Donc là, dans l'historiographie libérale, les héros, c'est la bourgeoisie qui a mis fin au règne des privilèges, à l'arbitraire féodal, etc., etc. Et bon,
Au
c'est une forme de
joug des traditions.
voilà, aux traditions, aux communautés fermées, à l'absence de commerce, aux invasions, etc., etc. Où on a un récit très glorieux, voilà, avec une espèce de progrès qui est incarné, qui est personnifié par une classe qui est la bourgeoisie, alors qui viendrait déjà du Moyen Âge. Bon, alors il y en a qui disent même l'Antiquité, il y a déjà une bourgeoisie. Bon, enfin, disons, voilà, globalement, les marchands, les commerçants, tout ça, voilà, ce sont les héros de l'histoire, et ce sont eux qui ont permis l'humanité de sortir de la mouise, quoi, de la mouise moyenâgeuse, puisque évidemment, il y a une vision très négative du Moyen Âge, bon, qui est assez justifiée, mais c'est vrai que quand on voit le 19e siècle et même la société actuelle, c'est pas forcément très joyeux non plus, quoi.
Et à l'opposé de ce récit, donc il y a le récit contre-révolutionnaire où donc là la modernité est une série de catastrophes mais du coup l'exposé de ces catastrophes fait au service d'une glorification d'un passé aussi voilà qui serait une forme d'âge d'or non questionné donc voilà il y a cette version-là aussi qui peut aussi servir de point d'appui de toute forme de fascisme ou autre idéologie régressive et du coup qu'il faut aussi maintenir la critique. Donc, du coup, est-ce que tu peux détailler cette version-là du récit de l'émergence du capitalisme et puis voilà, tout en en faisant les critiques également?
Alors, bah, l'historiographie contre-révolutionnaire ou réactionnaire, bon, évidemment, elle n'est pas. Bon, c'est comme l'historiographie libérale, il y a plein de nuances. Il y en a qui font naître le capitalisme, voilà. Il y en a qui font naître le capitalisme très tôt, d'autres plus tard. Bref, il y a des nuances, quoi. Mais globalement, c'est toujours voilà, un long processus de progrès avec une force positive qui est la bourgeoisie. Là, pour l'historiographie contre-révolutionnaire, on a plutôt l'inverse, en fait. Bon, c'est un peu la dialectique des Lumières et des Anti-Lumières, quoi, qui sont des espèces de frères jumeaux qui se détestent, mais qui quand même ont une certaine parenté. Et l'historiographie contre-révolutionnaire, globalement, elle considère que la modernité, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe qui détruit les communautés traditionnelles, qui affaiblit l'autorité paternelle, voilà, qui instaure le règne généralisé de l'argent et de l'usure, voilà, qui met en avant une classe de profiteurs qui ne sont pas voilà, qui ne sont pas de rang noble, qui sont voilà bassement accumulateurs d'argent, voilà, qui est la bourgeoisie. Et évidemment, l'historiographie contre-révolutionnaire et au réactionnaire, qui est quand même très très minoritaire aujourd'hui, hein, il faut le dire, mais qui était plus forte quand même au 19e siècle, globalement, elle valorise des sociétés qui sont plus ou moins précapitalistes. Alors parfois, ça peut être carrément la vision, bon, comme aujourd'hui, quelqu'un comme Alain de Benoist va plutôt valoriser des sociétés qui effectivement sont très éloignées du capitalisme et qui sont voilà, les sociétés néo-païennes, enfin les sociétés païennes, les sociétés germaniques. Après, ça peut être beaucoup le Moyen Âge français, l'âge d'or, Saint-Louis, voilà, où le capitalisme est simplement assimilé dans cette critique dans cette critique d'extrême droite, ouais, on peut le dire, simplement aux marchands et aux usuriers, en fait. Voilà, donc il y a une espèce de personnification du capitalisme où finalement le mal, c'est l'argent, c'est le côté abstrait, dynamique. du capital. Bon, on renvoie là-dessus à l'émission qu'on a fait sur les Lumières.
Et y a aussi une forme d'incompréhension du sujet moderne, et avec l'idée que le capitalisme vient par-dessus faire des ravages sur un sujet ontologiquement révolutionnaire ou communautaire, mais qui se fait juste détruire par la grande vague du capitalisme, et qui est encore là en germe, et qui demande qu'à pouvoir s'exprimer. Enfin voilà, il y a aussi cette logique là dans ce récit, non, un petit peu?
Bah oui, effectivement, un des gros problèmes effectivement de toute cette historiographie contre-révolutionnaire, c'est que d'un côté, elle va considérer que la modernité capitaliste est une longue suite de catastrophes qui fait qu'on est toujours, enfin, il y a une espèce de dégénérescence à partir d'un âge d'or qui est plus ou moins éloigné. Mais en même temps, et c'est ce que j'ai cru comprendre dans ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi une espèce de rétroprojection de certaines catégories concrètes, de certaines structures concrètes entre guillemets, de certains sujets concrets du capitalisme. Du capitalisme classique du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle, qui sont rétro-projetés dans un passé extrêmement lointain. Par exemple, on va se plaindre du fait qu'il y a une espèce de dégénérescence de la race européenne. La race européenne, ça n'existe pas. Il y a en moins 1000 avec les Germains, ça n'existe pas.
Donc on prend les constructions modernes et on les de race ou de peuple ou de nation, et on les rétroprojette dans le passé, et on glorifie le passé avec des catégories modernes.
C'est tout le paradoxe.
La mécanique un petit peu.
Oui, c'est tout le paradoxe, c'est-à-dire par exemple dans l'historiographie.
Tout comme le paternalisme aussi, on prend le patriarcat moderne et on le rétroprojette dans un virilisme aussi qui serait mis en péril par le capital. Enfin voilà, il y a aussi ce même ressort qui revient fréquemment.
Ouais, effectivement, c'est en France par exemple l'historiographie de l'émergence du capitalisme qui est un peu réactionnaire. Par exemple, je prendrais l'exemple de Jack Hertz, qui est un historien catholique et qui globalement lui fait naître le capitalisme au Moyen Âge avec les vilains marchands et les vilains usuriers. On verra que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et il y a un peu l'idée dans toute cette historiographie contre-révolutionnaire que alors, l'historiographie plutôt récente, hein, parce que au début du 19e siècle, c'était un peu différent, mais que voilà, la France a toujours existé. Voilà, la France, c'est le baptême de Clovis, c'est tout ça. Donc, on rétroprojette une catégorie qui est pourtant moderne et qui est quand même issue de la modernité capitaliste, la nation française, et on va la projeter 1500 ans en arrière pour dire cette pauvre communauté a été détruite par le processus de modernisation capitaliste, alors qu'en réalité, elle a été constituée par ce processus de modernisation capitaliste. Donc, on voit un peu l'ambivalence un petit peu de l'historiographie contre-révolutionnaire, qui à la fois est toujours, qui verse des grandes larmes de crocodile sur la modernisation capitaliste, tout en reprenant certaines de ces catégories centrales, au moins dans sa phase classique, la race, la nation, etc., etc.
Et enfin, on va regarder une troisième version, pour laquelle on peut dire qu'on a peut-être un peu plus de proximité, dans le sens où au moins elle essaye de se donner une forme de cadre théorique et analytique, et elle essaye de réfléchir aux catégories de l'économie politique moderne, et elle se pose la question de son émergence. Donc on va dire elle est un peu moins, un peu plus matérielle au niveau du récit, et c'est l'historiographie marxiste, par exemple, celle de Marx déjà, et puis celle de reprise aussi par des marxistes comme Wallerstein, etc. Donc qui situe le capitalisme au niveau de l'Europe occidentale, l'Europe de l'Ouest, et qui essaye de réfléchir à comment le travail a pu émerger comme marchandise, qui réfléchissent aux questions de l'accumulation primitive, essaye d'apporter des formes de distinction quand même entre commerce et marché, mais pas toujours, justement. On verra aussi un peu plus tard. Donc des fois aussi, il y a des défauts logiques dans l'approche, ou des formes de transhistorisme de certaines catégories, mais il y a quand même un effort analytique différent. Donc peut-être tu peux nous détailler un peu cette troisième version de l'émergence du capitalisme?
Bah, effectivement, elle est quand même beaucoup plus intéressante que les deux autres, disons-le d'emblée, parce que globalement, l'historiographie des Lumières, elle apporte pas grand-chose, et l'historiographie contre-révolutionnaire non plus. Alors, cette historiographie, bon, elle est assez vaste, on l'appelle marxiste, mais Wallerstein, bon, c'est un mélange avec du Braudel, puis après il y a Polanyi, enfin, c'est quand même assez vaste comme truc, donc ça va être un peu difficile de donner des caractéristiques générales, mais globalement, on peut en donner un certain nombre de toute cette historiographie. Donc, qui globalement, c'est une espèce d'historiographie qui s'inscrit globalement dans le courant des Lumières, qui ne considère pas la modernité comme une catastrophe. Bon, Polanyi, c'est un petit peu plus mitigé que ça, mais enfin, bon,
Et puis
globalement.
on peut peut-être pas le classer chez les marxistes là pour le coup,
Ouais, Polanyi, pour le coup, non.
Polanyi, même si voilà, il y a des apports là pour le
C'est
coup,
ça.
parfois plus intéressants que chez certains marxistes, sur notamment des distinctions anthropologiques. Voilà, donc du coup, par contre, il y a des choses à faire en combinant, on va dire, ces deux formes entre
Ça.
l'historiographie marxiste ou celle plus issue de
De Polanyi.
l'anthropologie économique, on va dire,
Ouais, de
au
Polanyi.
sens large et notamment polanienne.
Ouais, bah, on reviendra là-dessus, mais disons l'historiographie marxiste, bon, globalement, sa caractéristique, c'est que elle va considérer, selon un schéma un peu hégélien, que globalement, le capitalisme n'a pas toujours existé, mais qu'il existe quand même déjà sous des formes embryonnaires dès l'Antiquité, dès la Mésopotamie. Il y a déjà des formes embryonnaires. Et ces formes embryonnaires, elles vont globalement à la fin de l'Antiquité plus ou moins disparaître, avec voilà le Haut Moyen Âge, les invasions barbares, et puis ça va se remettre entre guillemets à germer à partir des villes, voilà, c'est les villes, le commerce et la bourgeoisie des villes à partir du 12e, 13e siècle. Donc là, pour le coup, Marx et Braudel disent à peu près la même chose, donc les villes italiennes, le commerce, les marchands, tout ça. Et donc cette classe, qui est la bourgeoisie, les marchands, tout ça, et d'un autre côté le commerce, vont petit à petit grignoter dans les interstices du féodalisme, grande expression du marxisme, et ça va amorcer ce que tous les marxistes appellent la transition du féodalisme au capitalisme, c'est-à-dire que, voilà, petit à petit, le ver est dans le fruit, et le ver va progressivement manger le fruit, et ce processus, voilà, ça va être une espèce de commercialisation perpétuelle, avec une bourgeoisie de plus en plus triomphante, et le moment où ça bascule définitivement, c'est quand la bourgeoisie prend le pouvoir, alors en France en 1789, mais il y a déjà eu des transformations, mais la prise de pouvoir par la bourgeoisie n'est que le couronnement d'un processus qui, en fait, fait que le capitalisme, globalement, dans ce modèle-là, émerge déjà globalement, après la crise du féodalisme du milieu du XIVe siècle. Globalement, dans l'historiographie marxiste, on peut dire que le XVe siècle, c'est déjà le capitalisme. Donc, la conquête de l'Amérique, c'est déjà le capitalisme. L'Ancien Régime, c'est déjà le capitalisme. Simplement, après, la bourgeoisie n'a pas encore le pouvoir politique. Mais globalement, pour eux, ça c'est un des problèmes aussi dont on va discuter, mais l'historiographie marxiste, elle considère que le capitalisme existe déjà sous l'Ancien Régime, que, voilà, alors on va parler de capitalisme marchand, voilà, parce que globalement, c'est qu'il y a quasiment il y a que du commerce, enfin, la terre, elle n'est pas encore utilisée comme moyen de production qui a l'air capitaliste, il n'y a pas vraiment d'industrie, donc du coup, on va dire bah, le capitalisme, il existe, mais sous une forme marchande. Et après, il va exister sous une autre forme. Alors que, on le verra juste après, que bon, en quoi est-ce que c'est problématique de parler de capitalisme marchand au 15e, au 16e et au 17e siècle en Europe occidentale. Et alors après, pour finir, ça c'est le modèle général de l'historiographie marxiste. Donc par exemple, c'est le modèle voilà de Sweetsy, de Dobbs. Il y a ça a été un énorme débat. Hein, dans les années 50-60, cette histoire de la transition du féodalisme au capitalisme. Et après, il y a une espèce de truc un peu à côté, mais un peu rattaché, qui est Wallerstein, donc qui fait suite un peu à Braudel, et qui lui considère que le capitalisme émerge aussi au 15e-16e siècle, mais lui va se centrer plutôt sur le monde, pas seulement sur l'Europe occidentale. On considère que le capitalisme émerge, en gros, avec l'économie monde, voilà, du grand commerce et de la colonisation des Amériques, quoi. Voilà.
Ok, donc en gros, ces trois versions, donc avec la dernière qui est quand même plus raffinée, on va dire. Par contre, elles partagent certaines défauts, on peut dire, notamment un caractère, on va dire, téléologique d'une, voilà, d'une continuité un peu, enfin, d'une suite logique, et aussi des fois les phénomènes de rétroprojection de catégories dans le passé, un peu moins, on va dire, dans la forme marxiste, même si justement parfois il y a aussi un rapport un peu transhistorique au travail ou certaines catégories modernes. Qu'est-ce qu'on peut formuler comme critique un peu générale par rapport à ça?
Bon, alors pour l'historiographie contre-révolutionnaire, bon, on va mettre ça un petit peu à part, mais globalement, ce qui pose problème dans l'historiographie des Lumières et aussi dans une large mesure avec l'historiographie marxiste ou de Wallerstein, c'est tout d'abord le fait qu'ils héritent du modèle de la philosophie de l'histoire des Lumières, c'est-à-dire l'idée que l'histoire est un progrès perpétuel qui passe par différents stades et qui va vers une fin. Vers une fin de l'histoire glorieuse. Alors, bon, chez les marxistes, c'est le communisme.
C'est le communisme.
Chez les libéraux, c'est le capitalisme libéral pur. Mais globalement, on va vers une fin de l'histoire. Et donc, c'est toute une espèce de philosophie de l'histoire hegélienne qui fait que l'histoire de l'émergence du capitalisme ne peut être conçue que comme un processus qui est complètement nécessaire, qui est inscrit dans les lois de l'histoire, d'une certaine façon. Et on aboutit forcément au capitalisme. Et en fait, le gros problème, c'est qu'en histoire, bon, bah voilà, déjà, on appelle ça de la téléologie, mais le gros problème, c'est qu'on va considérer qu'au XVe siècle, ce qui n'est encore que du commerce, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on développera juste après, ce qui n'est encore que du commerce de longue distance ou de courte distance, avec des marchés qui sont séparés, où c'est pas une logique généralisée de production de marchandises, etc., etc., on va lire ça à l'aune du capitalisme industriel du 19e siècle ou du capitalisme contemporain. Le problème, c'est que on peut pas lire l'histoire à rebours comme ça, parce qu'en fait, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Peut-être qu'on sera pas tous d'accord là-dessus, mais je pense que méthodologiquement, on peut pas considérer que quelque chose qui est là au 15e siècle sous cette forme doit forcément aboutir au capitalisme. En réalité, je pense fortement que, même si ça aurait pas été forcément une société beaucoup plus souhaitable, que on aurait pu très bien, c'est possible que les dynamiques historiques, de par le fait que, par exemple, je sais pas, moi, la monarchie absolue aurait triomphé en Angleterre, que les bourgeois auraient perdu la Révolution française, tout un tas de processus comme ça, on a vu par exemple en Espagne au 19e siècle, il y a une espèce les structures sociales se figent, les structures sociales du 15e siècle auraient pu très bien se figer, ou alors prendre d'autres directions, et ne pas donner naissance au capitalisme. Et donc, il faut, à mon avis, ne pas lire l'histoire du 15e siècle à l'aune de l'histoire du 19e siècle. Ça, c'est la première reproche qu'on peut faire de manière générale. La deuxième reproche de manière générale, c'est un peu la même idée, c'est que, du coup, on va considérer ce qui ressemble vaguement à ce qu'on connaît au 19e siècle, mais au 15e siècle, on va le considérer avec les lunettes du 19e et du 20e siècle. C'est-à-dire qu'on va considérer que le commerce de long cours, on va le voir avec les yeux du marché international au 19e et au 20e siècle. Ou on va considérer que, je sais pas moi, la finance médiévale, on va le considérer avec les yeux sur la finance, avec la manière dont existe réellement la finance capitaliste au 19e et au 20e siècle. Et le problème, c'est que, non, ça fonctionnait pas exactement de la même façon. Voilà. Et que du coup, tout ce qu'on peut faire, c'est dire que rétrospectivement, oui, effectivement, le commerce, l'intensification des relations commerciales au 15e, 16e et 17e siècle était effectivement une condition nécessaire pour que, disons, le capitalisme naisse au 18e, au 19e siècle, mais que d'un autre côté, c'était pas du tout une condition suffisante. Et en fait, déjà, ce n'est pas déjà du capitalisme, et en plus, ça aurait pu très bien ne pas donner naissance au capitalisme. Voilà. Et Du coup, le troisième point, et je vais très vite là-dessus, c'est du coup le problème de toute cette historiographie, c'est qu'elle confond des structures sociales avec des autres. Alors on va voir comment, hein, avec du coup la définition de ce qu'on pourrait appeler le capitalisme, mais globalement, elle va confondre l'intensification des relations commerciales, voilà, le développement du commerce, le développement des relations monétaires, tout ça. Elle va le confondre avec déjà une logique capitaliste, alors que enfin, ce qu'on va essayer de démontrer, c'est que non, la société, même si elle est très commercialisée au 15e, du 15e au 18e siècle en France et au 15e, 16e siècle en Angleterre, c'est pas encore une société capitaliste. Ce qui fait pas d'elle d'ailleurs une société forcément très souhaitable.
Mais on peut d'ailleurs insister sur le fait que Marx lui-même a oscillé entre différentes positions, une approche justement assez téléologique et on va dire le Marx un peu impliqué politiquement et parfois qui reste un peu dans une logique progressiste avec cette idée qu'un capitalisme va créer lui-même les conditions de son dépassement vers le communisme. Qu'on peut fortement remettre en cause, on va dire aujourd'hui, mais qui est une approche encore résiduelle chez certains, non, enfin, chez certains marxistes aujourd'hui, et puis osciller vers d'autres positions, comme par exemple, notamment, on peut prendre l'exemple de ses lettres à Vera Zasulitch, donc une militante plutôt anarchiste russe sur lequel voilà, il se pose les questions, est-ce qu'on pourrait passer directement de la forme enfin, des communautés agraires russes vers le communisme. Enfin voilà, donc il a pas d'avis figé. C'est voilà, vers la fin de sa vie notamment, il réfléchit les choses un peu autrement.
Oui, mais il est revenu un peu sur sa vision progressiste, notamment sur la colonisation, qu'au début il avait considéré de manière très positive en disant c'est une étape nécessaire du progrès, de la marche de l'histoire. Et puis à la fin de sa vie, effectivement, il est beaucoup plus critique. Il est moins marqué par cette espèce de philosophie de l'histoire, effectivement. Je pense que ça, c'est important de le dire.
Et cette distinction commerçant et commerce capitaliste, elle est aussi très importante dans le sens, voilà, comprendre que des commerçants de long cours à certaines périodes ont eu parfois un rôle, on va dire, statutaire et n'étaient pas dans la logique capitaliste pure qu'on connaît, c'est-à-dire j'investis une somme d'argent et je retrouve plus d'argent à l'issue de mon processus de commerce et s'imbrique dans des logiques sociales particulières et les biens, les qualités de biens ne sont pas commensurables. Voilà, donc il y a une série de choses auxquelles le commerce de certaines périodes ne répond pas par rapport à sa forme actuelle, bien entendu. Donc ça, c'est quand même important parce que ça peut créer des confusions aussi. Rapidement, et là-dessus, on peut même dire que c'est l'anthropologie économique qui nous a amené plus de billes que le marxisme à certains égards, ou en tout cas, il y a
enfin, que le marxisme orthodoxe, en tout cas, c'est
que,
sûr.
voilà, que le marxisme orthodoxe, en tout cas, ouais. Et du coup, voilà, par rapport à ces différents récits et ces critiques, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que, à partir de quel moment est-ce qu'on peut parler de capitalisme, justement, donc, et après on essaiera d'illustrer un peu ça dans la version enfin, anglaise de son émergence, mais voilà, nous préciser à partir de quel moment on peut parler de capitalisme.
Alors, du coup, je pense que pour savoir à quel moment est-ce qu'on peut parler de capitalisme, partant du coup de partir sur une espèce de définition, mais concrète, je pense, très empirique du capitalisme, c'est-à-dire on va pas trop rentrer voilà, dans des catégories, mais plus, voilà, concrètement, à partir de quel moment est-ce qu'on peut dire que vraiment on est dans une société capitaliste, et montrer par contraste, en fait, pourquoi est-ce que bah, telle situation ne relève pas du capitalisme, alors que telle situation en relève. Alors globalement, pour donner quand même un aperçu général, on peut dire que globalement on rentre dans le capitalisme, pas du jour au lendemain, hein. Ça reste un processus, c'est un processus qui est fait par de continuité et de discontinuité, mais dans les moments de discontinuité très forts, comme ça va être le cas en Angleterre au XVIIe siècle, il va y avoir ce qu'on peut rétrospectivement appeler l'émergence du capitalisme. Donc voilà, au XVIIe siècle. On reviendra sur ce processus, alors qu'en France, Moi, je placerai l'émergence, on y consacrera une autre émission, l'émergence du capitalisme beaucoup plus tard, au moment en fait de la Révolution française, où là il va y avoir une telle rupture que là on peut dire effectivement que quelque chose comme le capitalisme a émergé. Alors du coup, c'est quoi le capitalisme émergent? C'est-à-dire pas très développé, pas encore industriel et tout ça. Alors donc je pense que c'est important de préciser qu'est-ce qu'on entend par ça. Alors tout d'abord, c'est une société dans laquelle on peut une majorité des hommes, parce que bon, le cas des femmes est un petit peu compliqué, mais dans laquelle une majorité des hommes vend, et ce de manière contrainte, sa force de travail. Donc c'est en gros une société dans laquelle une majorité des individus hommes, je précise, sont salariés ou, disons, des producteurs indépendants, mais très fortement dépendants du marché. Genre des artisans et des paysans très fortement dépendants du marché. Donc globalement, c'est une situation qu'on retrouve en Angleterre au XVIIIe siècle, où il y a 60% de salariés.
Dépendant du marché, c'est-à-dire ils ont besoin d'aller sur le marché pour pouvoir après subvenir à leurs besoins et on n'est pas juste sur j'amène quelques surplus de travail sur le marché ou
C'est
qui
ça. Bah, c'est une
s'intègrent dans les
obligation.
logiques.
C'est
Voilà.
une
C'est une
obligation
obligation
absolue.
structurelle
C'est ça.
et absolue.
Voilà, parce qu'il faut payer des rentes et parce qu'il faut payer des impôts. Ça,
Sur
on reviendra un peu là-dessus.
la question de fiscalité.
C'est ça, sur la question de fiscalité. Après, deuxième chose, je pense que c'est très important de comprendre que voilà, le capitalisme, c'est un système. Et donc, du coup, on peut dire qu'il émerge à partir du moment où il y a un marché national. Et plus des marchés locaux, ou des marchés voilà, qui sont des espèces de points de rencontre entre marchands venus des quatre coins du monde. Et en gros, ce marché national, il existe à partir du moment où, et ça fait beaucoup de conditions, on verra, où il n'y a plus de corporations. Alors les corporations, peut-être qu'on aura l'occasion de redétailler, mais en gros, disons, des structures juridiques qui regroupent différents métiers, donc tanneurs, tisserands, etc., etc., qui ne peuvent pas être plus d'un certain nombre dans une ville, qui ont le monopole de la production sur ce bien d'usage, donc par exemple, je sais pas moi, le tissu, dans une ville, ils ne peuvent pas être plus d'un certain nombre, la qualité du produit est fixée, et donc il n'y a pas de concurrence. Et c'est un marché par ville. Voilà. Donc, il peut pas, et donc on n'est pas du tout dans un truc de marché du travail. Tout le monde ne rentre pas dans ces corporations, il faut avoir fait un. Voilà, il faut être apprenti, il faut avoir fait un certain nombre d'années dans l'apprenti. On n'est pas du tout sur les règles du marché du travail, du capitalisme.
Là, ça correspond à la forme de l'ancien régime, par exemple, en France, quoi.
C'est ça, voilà. Les corporations en France, elles sont abolies en 1791, alors qu'en Angleterre, globalement, elles sont abolies à la fin du XVIIe siècle. Donc là, on voit un peu un décalage chronologique. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a plus de monopole. Les monopoles, c'est-à-dire que, il n'y a plus un groupe, il n'y a plus un groupe de marchands, ou telle manufacture qui a le monopole sur la production et la vente d'un bien. Mais tout le monde peut produire ce bien et peut le vendre à tout le monde. Et donc ça, c'est l'abolition des monopoles. Globalement, en France, c'est la Révolution française et en Angleterre, c'est au XVIIe siècle. Donc pourquoi est-ce que je parle des monopoles? Alors, j'entends bien, il y a évidemment des monopoles qui se forment dans le capitalisme, mais ce ne sont pas des monopoles juridiques. Ce sont des monopoles de fait. Voilà, parce qu'il y a un. Par le jeu de la concurrence, il y a
Ils
un
ont
concurrent
pris tout le marché,
qui a
tout
pris tout le
simplement.
marché.
Ouais.
Voilà.
Ce n'est pas des statuts juridiques de. C'est
Voilà.
eux qui
Qui sont
s'occupent
accordés par le
de
roi ou par la ville.
accorder. Voilà, ce sont des traités ou des. Ouais.
C'est ça. Donc, voilà. Plus de monopole, mais un marché, voilà. Un marché libre où tout le monde peut produire n'importe quel type de marchandise. Troisième chose, c'est également un marché dans lequel il n'y a plus de frontières douanières. Donc les frontières douanières en France, elles sont abolies en 1790-1791. En Angleterre, elles sont abolies au XVIIe siècle. Et pourquoi est-ce que c'est important ces histoires de barrières douanières? Bah, ça veut dire que tant qu'il y a des barrières douanières, bah, il n'y a pas vraiment de marché unifié. Et s'il n'y a pas de marché unifié, il n'y a pas vraiment de concurrence en fait. Et donc du coup, chaque marché local peut produire de manière complètement non compétitive, non productive, sur une espèce de monopole de rente. Voilà. Et donc, du coup, on n'est pas du tout dans les caractéristiques du système capitaliste, où effectivement, il peut y avoir évidemment des monopoles, des droits de douane élevés et tout ça. Mais par exemple, quand on parle de protectionnisme, là, le protectionnisme en France, au XVIIIe siècle encore, c'est un protectionnisme par région, par ville, voilà, c'est des protectionnismes très locaux. Alors qu'effectivement, en France, on va dire, oui, c'est protectionnisme la France au XIXe siècle, oui, mais à l'intérieur, il y a quand même de plus en plus une guerre généralisée entre entreprises. Et ensuite, bon, je pense que globalement, voilà, c'est globalement ça, les caractéristiques. Alors après, pour parler de marché national. Ensuite, il y a également le fait que, ça c'est un niveau un peu plus micro, mais globalement, les gens qui investissent de l'argent dans un processus de production ne le font pas, l'argent qu'ils en retirent, ils ne l'investissent pas dans une consommation improductive, c'est-à-dire ils vont acheter des terres pour devenir seigneurs, par exemple, c'est un grand investissement classique de ceux qui s'enrichissent en France au XVIIIe siècle, mais ils vont réinvestir, ils vont être contraints en fait de réinvestir dans le processus de production pour gagner en productivité et en compétitivité. Et ça, c'est quelque chose de très important dans le capitalisme, c'est des contraintes structurelles de productivité, il faut toujours augmenter la productivité et il faut toujours augmenter sa compétitivité. Donc il y a une concurrence très forte. Ça, c'est une caractéristique centrale du capitalisme.
S'il n'y a pas de profit escompté, on n'investit pas, on ne touche pas à ses ressources.
C'est ça aussi, voilà, il y a effectivement le fait que on va investir dans un processus de production vraiment uniquement pour en retirer de l'argent et pas simplement pour accomplir une fonction sociale ou quelque chose de cet ordre-là. Et du coup, on voit qu'on est dans une logique, donc à la fois où tout le monde enfin, une majorité des gens sont censés vendre leur force de travail, où il y a un marché national, où il y a une dynamique parce qu'il y a une concurrence généralisée entre capitalistes. Avec une dynamique, avec une course à la productivité et à la de par la concurrence. Et on voit qu'on est quand même dans une situation très différente de la France de l'Ancien Régime, où la majorité des gens sont des paysans ou des artisans membres de corporations, et ils ne font pas partie d'une logique de production générale de marchandises de manière concurrentielle. Il n'y a pas de marché national parce qu'il y a des corporations, des monopoles, des droits de douane inférieurs, et même des centaines de codes de loi, ce qui fait qu'il n'y a pas un droit unifié, un droit commercial unifié, par exemple, alors qu'en Angleterre, c'est déjà le cas au XVIIIe siècle. D'un autre côté, lorsque on se fait de l'argent en France au XVIIIe siècle, en général, on va aller acheter des terres pour devenir seigneur, ou on va acheter un titre judiciaire, voilà, par exemple, on va devenir ce qu'on appelle un noble de robe, on va acheter une charge. Et cette charge donne droit automatiquement à un certain à des rentrées d'argent, mais cet argent qui est issu de voilà du fait que les paysans sont obligés voilà, de filer sous forme de monnaie une partie de leur récolte à travers tout un tas de ponctions féodales et de ponctions monarchiques. Et du coup, d'un autre côté, il n'y a pas du tout de concurrence généralisée en France au XVIIIe siècle et la productivité globalement on augmente pas beaucoup.
Ok, donc là on a quand même insisté sur peut-être les conditions un peu matérielles du capitalisme. Il y a, on va dire, d'autres formes de préconditions peut-être plus subjectives aussi sur une sorte de rapport au temps abstrait. Voilà, des choses qui ont été développées par exemple par Moïse Postone ou voilà la constitution d'un travailleur abstrait qui est prêt à travailler pour quel que soit le contenu du travail. Donc là, thèse pas mal développée par Robert Kurtz, par exemple, ou la révolution scientifique moderne. Enfin, voilà, y a d'autres, on va dire, préconditions pour créer le mélange
Il y a l'État
explosif
moderne aussi.
et la constitution de l'État moderne, et avec aussi des équilibres au niveau du pouvoir où on n'est plus sur des équilibres entre l'Église, la puissance militaire et des corporations de producteurs, mais d'autres, effectivement, enfin voilà, la constitution de l'État moderne qui répond à d'autres logiques. Donc effectivement, il y a plein d'autres éléments, mais on va se concentrer un peu sur cette histoire d'émergence en Angleterre. On va faire ça dans un second temps, et puis on se retrouve pour discuter un peu, voilà, de.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. Et la seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.